faire l'homme intervenir pendant 10-15 minutes et après oui. L'idée c'est qu'on puisse discuter.
Mais peut-être même pendant, parce que justement l'idée c'est pas de faire un cours de mécanique quantique, mais on peut facilement en fait aller vers ça et c'est pas du tout le but. En fait c'est plutôt de donner. Alors déjà sachez qu'ils m'ont demandé de donner une interprétation qui serait tout à fait personnelle, parce que je vais exploiter des concepts que nous on connaît tous les jours pour avoir comment disons ces concepts sont évoqués par l'expo, mais c'est un exercice de style, donc c'est-à-dire en fait il n'y aura pas vraiment des techniques de physique appliquées sur ça, donc ça reste un langage qui est celui de l'art, celui de la philosophie, celui de la critique, beaucoup plus en fait que celui de la mécanique quantique. Alors j'ai besoin aussi de vous donner quelques concepts quand même, donc on démarre vraiment à part un peu de ça, et pour que vous verrez comme ça comment nous on a certaines, ça peut déjà venir les ok, et quelques concepts pour justement que je puisse donner l'interprétation. Alors donc en mécanique quantique on a donc c'est surtout exploité pour regarder le monde tout petit, atomique, subatomique, et c'est là, c'est quand même une branche de la physique. On décrit la réalité avec ça, okay? Donc c'est tout à fait précis. On est capable quand même de sortir des chiffres exacts que si on veut faire des dispositifs, on veut faire des mesures extrêmement précises. Cela dit, les concepts de base ne sont pas déterministiques. On peut pas avoir une approche. On ne peut pas regarder les choses comme on les regarde dans notre monde. Il y a une fluidité, il y a un flou vraiment en fait. C'est-à-dire que les objets ne sont jamais définis par exemple dans leur position exactement. Ils sont toujours en fait plus ou moins là. Ça ne veut pas dire du tout en fait qu'on n'est pas capable de savoir qu'est-ce que l'on fait. On est juste obligé à faire des valeurs moyennes. Vous savez ce que c'est une valeur moyenne? On a une statistique des choses, on somme, on va regarder la probabilité la plus importante dans laquelle, en fait, par exemple, l'objet se retrouve. De même manière, en fait, c'est vraiment cette approche statistique, probabilistique, qui fait justement une partie très, très, disons, conceptuellement très compliquée de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'on regarde les choses, on sait plus ou moins où elles sont, et on est content de ça. Mais parce qu'après, on sait analyser ça d'une façon très précise et donc, mine de rien, à la fin, arriver à des quantités physiques exactes. Donc, on ne se perd pas. Il n'y a pas une interprétation. Le flou est juste statistique. Ce n'est pas de l'interprétation. Il n'y a pas un enjeu de ce type-là. Il y a deux concepts qu'après, on va revoir régulièrement. Donc, et c'est pour ça que j'ai accroché. Ils sont justement, en fait, le concept de fonction d'onde et d'espace de Hilbert, qui sont deux concepts très mathématiques. La fonction d'onde est exactement ce qui entoure, ça c'est je trouve en fait que le nom est assez évoquant, ça aide un peu, parfois espace de Hilbert par exemple ça évoque beaucoup moins, mais la fonction d'onde c'est vraiment en fait cette possibilité, cette distribution statistique autour de ce que l'on est en train de regarder. Attention, quand on dit regarder, on peut regarder un objet, une position, mais on peut regarder une vitesse, c'est déjà un peu plus compliqué. On peut regarder une accélération, bien sûr, on peut regarder un champ électromagnétique, et donc des quantités physiques. Nous, on dit toujours qu'on les observe. Okay. On les observe, évidemment, on les mesure fondamentalement. À l'entour de toutes ces quantités, il y a une fonction d'onde, qui est donc la probabilité plus ou moins d'être là. La physique quantique étale les choses, fondamentalement. Okay. On a cette mesure des choses qui est toujours fluide et plus grande, plus vaste de ce qui est vraiment en fait ce que l'on regarde nous normalement avec notre perception, nos sens. Alors il y a donc une autre chose qui est très importante en fait, et c'est l'espace de Hilbert qui est celui dans lequel qui contient toutes ces fonctions d'onde. C'est un objet. Hilbert, c'est avec un H, et c'est l'espace de Hilbert que en fait contient toutes ces quantités. fondamentalement. Et, mais ça peut être extrêmement simple. Par exemple, justement, en fait, si je fais un exemple le plus banal que l'on fait normalement dans des situations, c'est lui, par exemple, de se passer lui à composer juste deux choses. Une blanche et une noire. Oh, nous, on dit spin up et spin down. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, en fait, dans, on s'intéresse juste à décrire quelque chose qui est noir ou blanc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à l'intérieur de ces entités mathématiques, sont parfaitement mathématiques en plus, il n'y a pas de grande intuition physique dans ces choses, on a la possibilité de toujours sommer tout ce qui est dedans. Et donc, justement, entre le noir et le blanc, j'ai la possibilité de sommer toujours, de mettre en phase, encore les ondes qui reviennent toujours, mettre en phase et avoir toutes les sortes de gris. Ça dépend si je suis plus du côté noir ou du côté... Et en effet, dans cet espace libre le plus simple possible, donc avec deux objets, j'ai quand même une infinité de couleurs entre, ou des tonalités si vous voulez, préférez en fait, entre le noir et le blanc. Et ça, là, cette somme est exactement la fonction d'onde. Par exemple, dans ce cas simple, c'est très simple. Après, on gère des choses beaucoup plus compliquées avec n particules, n très très grand ou infini parfois, ça dépend des choses qu'on veut faire. Alors ça, c'est un peu les deux préambules sur lesquels, en fait, je pense que de nous, on est très habitués, je disais l'autre jour à quelqu'un, peut-être à toi, Virginie, on est très habitués à être non compris. Et malheureusement, en fait, c'est assez une frustration. Hein, donc, à part un cours, mais même quand, évidemment, les copains te demandent, mais allez, dis-moi un peu ce que tu fais. Et donc, peut-être pour éviter ça, en plus parce qu'il n'y a pas grand-chose, ce serait intéressant si vous pouvez poser des questions les plus bêtes possibles. De toute manière, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas vraiment de la physique, c'est vraiment quelques objets qui nous permettent de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, ce qui m'a plu en fait de cette expo, c'est avant tout rien de physique, c'est le récit de la vie. C'est le fait en fait que, je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'expo, mais en effet, c'est comme tu disais avant, il y a une ouverture sur la vie, l'enfance, avec en plus, je trouve que... l'auteur a toujours un regard, elle nous aide, hein, l'enfance, le bébé, les œufs, ça part, donc on peut vraiment, même la naissance, okay. Puis la phase adolescente avec la chambre qui est tout un bordel, et puis on range parce qu'on est bien grand, et puis on est obsédé, c'est la partie un peu finale. Et ça c'était quelque chose que j'ai vu tout de suite, encore je vous parle absolument de mon interprétation à moi. C'est pas du tout, en fait, c'est quelque chose que j'espère. Et ce qui m'a, vu que j'étais sollicité pour avoir une vision des physiciens et de la mécanique quantique, j'ai trouvé, en fait, que ce qui m'a beaucoup frappé, c'était, par exemple, au début, la différence entre les formes qu'on a ici, qui sont assez carrées, assez classiques, et donc, sachez qu'on est à la physique classique aussi, bien évidemment, et que je trouve en fait la naissance, à part cette onde que l'on voit très bien ici, je trouvais, en fait, j'étais beaucoup tiré par le froid des métaux par rapport au chaud du bleu du mur. On voit ici, on voit derrière, c'est vraiment le fil conducteur, je dirais, en fait, de l'expo. Et c'est, et là, je trouvais en fait un sentiment que la naissance est beaucoup classique. Donc c'est facile, c'est noir et blanc. Un bébé, en plus, moi j'en ai eu, ça dort, ça mange, ça dort, ça mange, ça braille. C'est assez... il n'y a pas beaucoup de surprises, finalement. Peut-être c'est une vision paternelle, la mère a sûrement des choses différentes. Et donc, il y a vraiment cette simplicité classique et cette dualité que je trouve en fait beaucoup liée à cette phase, en fait, à la phase vraiment de la naissance. Les premières années de la vie. Et puis, on rentre dans une phase, on grandit, et là, c'est vraiment ça qui m'a fait penser. Vous voyez, en fait, à propos des fonctions d'onde, il y a une grosse onde ici. Et en plus, nous, les ondes, comme ça, on les reconnaît tout de suite. On sait que c'est une onde infinie. C'est une onde qui décrit un objet qui a une certaine vitesse. Et c'est une onde, justement, le fait qu'elle soit finie, ça veut dire qu'on ne sait pas où ça termine. Et c'est beaucoup lié, je trouve, à la phase adolescente, ou juste post-adolescente, dans laquelle il y a une énorme probabilité de faire tout ce que l'on veut. Donc ça revient à cette interprétation très probabilistique, avec cette possibilité en fait de se projeter à l'infini, avec tout est possible, et justement avec cette délocalisation entre où on est nous et l'espace, donc c'est encore voilà, cette possibilité d'être infini. Puis c'est marrant parce qu'en fait la partie centrale ici, c'est plutôt ce que j'avais retenu un peu comme l'espace des Hilbert. Toutes les configurations possibles. L'espace dans lequel il y a vraiment une sorte de naissance, l'espace mathématique dans lequel en fait toutes les configurations sont là. Et puis il y aura justement une fonction d'onde qui va peser les choses, mesurer et créer donc cette probabilité de, entre toutes les configurations possibles, avoir donc une certaine, la même forme. Sachez que ça, on le mesure, après on peut en dériver la vitesse et la probabilité, et donc on sait vraiment à la fin faire quelque chose. Par contre, là, c'est vraiment l'ensemble des configurations qu'on connaît, qu'on doit juste nous, en fait, mettre ensemble. C'est intéressant, en fait, que donc cette phase adolescentielle s'arrive, on peut même repartir de l'autre côté, et je trouve que, voilà, c'était assez évocatif pour moi. On passe après dans la troisième paroi, dans laquelle, vous voyez, en fait, on retrouve encore ces formes. Je suis vraiment guidé par les dessins des formes métalliques sur le mur. Et on a donc une certaine distribution, mais cette fois-ci, vous voyez, en fait, ces fonctions d'onde sont relativement plus concentrées. Ça, c'est encore un concept que l'on connaît, c'est-à-dire, en fait, le fait que la fonction de localiser. On n'a plus cette projection vers l'infini. Il y a toujours un espace sur lequel de probabilités alentour de cette position. Mais bon, on commence à voir une certaine dimension. Tu vois des collègues là qui rient. Bonjour. Et donc, cette interprétation, je trouve qu'elle est très intéressante, le fait que dans l'âge qui devient plus mûr, on commence quelque part toujours à être un peu délocalisé. On a perdu quelques rêves peut-être, mais on est encore, on couvre l'espace, et l'espace est relativement limité, et délimité, je le vois en fait dans cette chose qui n'ont pas cette allure comme d'une sinusoïdale qui est projetée vraiment à l'infini. Et puis il y a des formes qui sont au contraire, hein, qui semblent s'ouvrir vers l'espace, mais toujours avec des points de convergence, et voilà, ça, je trouvais en fait que c'était, ça m'a représentait beaucoup plus cet aspect, disons, plus confiné, plus déterminé. Et en continuant, en fait, donc dans la vie, on arrive à la quatrième paroi, qui est celle plutôt qui nous donne vers l'âge la plus mûre. Ce qui m'avait frappé, c'était ce sens de platitude qu'on voit ici, tout plat, à part une marche pour entrer et entrer sous terre à la fin, en fait, de la possibilité peut-être en fait, d'être une évocation qu'à un certain moment on arrive là. Bon, il y a plein d'autres choses évidemment, mais encore, si j'étais c'est sans plat, c'est terrible parce qu'il y a une angoisse en mécanique quantique, et c'est celle du potentiel plat. Ça veut dire en fait être dans un espace sans aucune force. Donc, sans aucun champ, rien. On a le vide, et être dans le vide, il y a une chose extraordinaire qui se passe. Ce sont des calculs simples, en plus, qu'on donne au début de quand on commence à étudier. Et c'est que ce potentiel plat, c'est-à-dire, un potentiel plat, c'est vraiment être sur le plat le plus total. Vous mettez une sphère, elle sera là toujours, elle ne bougera pas. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pente. Et qu'est-ce qui se fait en mécanique quantique? Si vous prenez cette microsphère, un électron, vous le mettez dans le vide, vous faites passer le temps et il s'étale régulièrement. Il commence à devenir de plus en plus grand et, si on a le temps d'attendre, en fait, il prend l'espace de l'univers entier. Donc, il devient de plus en plus, et c'est cette chose assez extraordinaire, donc si on attend, quand il y a dans cette situation, évidemment, attention, c'est, c'est impossible à créer sur Terre. Il faut vraiment aller imaginer l'espace le plus loin. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça nous projette immédiatement ce potentiel plat. Ça nous projette très loin, en fait, dans un monde justement assez sans lumière, sans accroche, sans rien, dans lequel, en plus, on a cette chose angoissante qu'on devient de plus en plus plat, c'est-à-dire notre probabilité s'étale uniformément d'être partout et nulle part, évidemment, parce que on devient de plus en plus délocalisé, notre probabilité devient de plus en plus étalée, et évidemment, en fait, on est donc on a fondamentalement la probabilité d'être partout qui est équivalent à être nulle part. Et donc, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, cette sorte, évidemment, puis accompagné par le feu, qu'on le voit souvent revenir, il y a une grosse image ici, ce sens justement, le feu aussi, non, brûlé, c'est vraiment quelque part envoyé dans l'espace, et dématérialisé encore. Voilà, ça c'était un peu le récit d'un de la physique quantique moyenne sur l'interprétation que j'ai pu avoir et ressentir de cette expo. Je suis très content, en fait, s'il y a quelques questions les plus banales, je serais content, même par les collègues qui connaissent l'objet bien.
Mais par rapport à cette platitude, comment vous verriez le sens de twist au milieu de torsade
La lentille?
Non, derrière.
Ah la torsade, très ouais, bien. Ok. Parce que la lentille, c'est un marin. Et donc, le. Très intéressant, en fait. Et c'est vrai qu'en effet, on avait vu ça. On avait vu, et je l'avais remarqué, et quand je. Hier, je faisais une petite répète, justement, en fait, pour voir si j'étais à la roue. Et c'est justement le fait, en fait, que on peut être vraiment dans une platitude totale. Non, pas vraiment, en fait. Il y aura toujours, encore je parle de moi, hein, donc il y aura toujours un petit twist, comme on dit justement, que oui, quelque part, il y aura toujours, on ne sera jamais dans cette sensation vraiment de l'univers, loin du monde, loin de toute force. Donc voilà, ça c'est la perception que j'ai de ça. Mais sachez en plus que j'ai regardé, ça c'est intéressant, parce que j'ai regardé tous les objets ici, pas tout en fait, mais j'ai regardé avec attention parce que j'ai eu la chance en plus d'avoir une visite guidée par vous très complète au début, et donc qui m'a permis en plus de focaliser. Je pense en plus que l'idée c'était aussi de prendre un objet seul pour extraire, c'était liberté totale. Je crois qu'on est très habitué à être un peu universel, à chercher d'avoir ce regard d'ensemble, donc je serais tombé. Mais ce serait intéressant de voir, par exemple, un astrophysicien face de moi. S'il aura un regard d'ensemble, il ne s'est pas concentré sur un objet. Il regarde les satellites un par un, peut-être, il y a une vision différente que la mienne. Donc aussi sur les objets, effectivement, en fait, il y a des choses qui m'ont frappé, qui m'ont plu beaucoup. Le petit serpent qui tourne, ça, je trouve une belle idée, en fait, parce que on le voit souvent, en fait, une certaine, comme dans l'enfance, on a parlé de ça, non, le fait des œufs. Ouais, ça va, écoute, on comprend. Donc, cette symbologie simple qui permet justement un peu de baisser le ton. Sinon, on est toujours dramatique et c'est lourdissime. Et donc, il y a ça, bon, il y a la lentille, évidemment, qui peut être évocatrice de certaines choses. Mais il y a aussi à l'intérieur des photos de famille, des photos différentes, en fait. Comment s'appelait en France le
Minitel.
Voilà, Minitel, j'étais là. Bon, il y a des choses sympathiques aussi. Je pense que c'est peut-être partie vraiment de ne pas nécessairement, en fait, avec ces discours artistiques, vouloir juste passer un message, que ce soit juste trop profond, en fait, mais que parfois on a besoin aussi d'avoir un regard un peu détendu sur la vie, sur les choses.
En plus, je pense que Camille Henrault, l'artiste, elle joue vraiment sur ce sur cette double approche, c'est-à-dire qu'elle va mobiliser énormément de références, de systèmes de savoir qui viennent de la philosophie, qui viennent de l'anthropologie, qui viennent des sciences, etc., et les éclater sur ses murs, d'une certaine manière, en y mêlant aussi des photos de famille, des clins d'œil, des blagues un peu plus potaches sur le rapport entre les coups de soleil et l'exposition trop frénétique à la connaissance, ce genre de choses. Donc elle aussi, elle navigue entre l'esprit de sérieux qu'elle regarde avec un peu de distance et puis des choses beaucoup plus personnelles, subjectives, humoristiques et légères, quoi. Je pense
que... Oui, je pense que c'est bien. Ça nous permet en plus de regarder ça un peu plus tranquillement. Donc, Mais je, voilà, là, je n'ai rien en regardant ça. En plus, il y a des niveaux d'énergie à l'intérieur, tu as vu, hein, c'est tout ce qu'il faut. C'est clair, en fait, qu'un mécanique quantique, ça, c'est vraiment une belle image. Et puis, la voir grand comme ça, c'est même sympa. On est toujours habitué à la voir dans les bouquins tout petits. Non, on dit, tiens, voilà, paf, une belle fonction d'onde. Et c'est vraiment un peu comme ça que la vie, je pense. Je regarde les collègues, je cherche parce que je pense vraiment que c'est comme ça, en fait. Oh, finalement, quelqu'un qui me fait voir comment ça peut être grand. Et puis, on s'arrête dans ce contexte de la jeunesse, donc dans laquelle, effectivement... Et ça, j'insiste sur ça. Alors, ces types de fonctions d'onde sont celles, en fait, qui n'ont ni commence ni finit. Non, c'est vraiment... Et voilà, donc, bon, je me rappelle... Encore maintenant, évidemment, je vais toujours vers l'infini, hein, parce que sinon... ces objets sont tellement intéressants, en fait, parce que même du point de vue mathématique, quand on doit... En fait, il y a des choses qui sont difficiles à faire. Donc, on a la sensation, vraiment, de toucher des objets qui ont vraiment cette dimension énorme, qui dans leur espace des Hilbert vont vraiment d'un côté à l'autre, qu'on arrive à les traiter juste parce qu'on doit remettre un peu à faire des trucs mathématiques sur nos espaces des Hilbert. Et voilà, ça, c'est, je trouvais, en fait, c'était vraiment évocatrice, celle-là. Et puis le reste est venu parce que je trouvais le récit sympa et donc que je retrouvais. Et puis la fin sur le potentiel plat, évidemment, en fait, cette idée de se dématérialiser. Et puis, je trouve que c'est assez, c'est vrai, c'est relativement angoissant, en fait, l'idée du paquet d'ondes. Alors, c'est ce paquet d'ondes qui, dans le temps, part dans tout l'espace, sans rien faire. Et donc, dans le temps, on perd mémoire, on perd tout, en fait. Vraiment, c'est vraiment, on a perdu complètement. Et ça se perd progressivement. C'est pas qu'à un moment, pouf. Non, au fur et à mesure, on a ce paquet d'ondes qui prend de la place, toujours plus grande. Et voilà, c'est le potentiel plat.
Oui.
Vous parlez de potentiel plat et de vide, mais donc c'est des notions que je ne maîtrise pas forcément, mais il n'y a pas dans le vide aussi des fluctuations quantiques qui permettent d'avoir spontanément de la création et de la destruction aussi.
Ça, c'est très bien fait. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai. Il y a tout à fait ça. Donc, il faut... pour avoir un dipôle. Non, c'est vrai, tout à fait. Donc, même dans le vide, c'est vrai, en mécanique quantique, le vide n'existe pas exactement comme je vous l'ai décrit. C'est très, très juste. Il y a partout les fluctuations du vide, c'est-à-dire que spontanément, de temps en temps, en fait, on peut avoir, par exemple, un coup de lumière. Ou donc un photon qui passe, quelque chose du rien, et ça, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est vrai aussi que si on prend quand c'est simple, ça, vous comprenez, en fait, que si ça c'est possible, si on prend un volume de plus en plus grand, ok, donc ces fluctuations contiendront de plus en plus d'énergie, parce que plus c'est grand, plus on aura la possibilité d'avoir des fluctuations, on peut le penser vraiment comme ça. Donc, si on prend l'infini, on devrait avoir une énergie infinie dans l'univers, ça ne va pas. Il faut que tout soit contenu. On ne peut pas diverger, rien diverge dans ce monde, à part nous. ça, c'est notre problème. Et donc, effectivement, même ces fluctuations, on peut les contenir. Et ça, on peut vraiment imaginer donc d'être dans un espace suffisamment grand où les fluctuations sont suffisamment faibles pour qu'effectivement l'approximation, toujours, hein, l'approximation de potentiel plat soit très très valable. Ça veut dire en fait que peut-être la particule ne se tellera pas pendant le temps de l'infini, mais pendant l'infini, jusqu'à l'infini, mais bon, ça va. De toute manière, en plus, il faut savoir que rarement on a des concepts vraiment. Nous, on le sait en fait que c'est un modèle. Okay. On le sait que c'est un modèle et que ça, c'est bon pour quelques millions d'années, sûrement, en fait, hein, dans le passé, dans le futur. Et après, les choses sont plus compliquées. Donc, mais ça va pour notre vie, quelques millions d'années. C'est intéressant. Et voilà, donc le truc, c'est faire attention, on n'est pas. Ce qui est important, à mon avis, c'est le regard sur l'art. Parce que vous parlez de mécanique quantique, on aura. Évidemment, on est toujours à votre disposition, quasiment toujours. Je pense en fait que c'est important, en fait, c'est de vous avoir donné un peu cette. Peut-être la partie, je suis passé un peu vite, c'est la partie d'adulte. Peut-être parce que c'est celle dans laquelle je suis dedans et donc ça m'intéresse le moins possible. Mais elle est intéressante aussi, en fait, avec cette localisation. Bon, quelque part, quand même, attention, localisation, mais sur un certain. On a un range d'action qui peut être grand. Donc, ça veut dire que oui, on n'aurait plus l'infini, mais on peut être très puissant. Et donc, être localisé sur la France, sur l'Europe, sur le monde, ça dépend de quelle nationalité on est. Et donc ça c'est très intéressant à mon avis et c'est justement ce que l'on voit, en plus il y a intercation entre une forme et l'autre, donc on peut justement passer d'un côté à l'autre et ce que l'on fait, hein, donc on change de configuration, la fonction dont de varie, communique, se couple avec des autres, ça c'est un peu
Ce qui m'intéressait, au début, vous avez présenté un peu votre domaine. Et vous disiez que souvent, quand vous parliez à vos amis, ce que vous faites, ils ne comprenaient pas. Vous aviez du mal à ce qu'ils comprennent. Et j'ai l'impression, quand on est artiste, souvent, ça nous arrive qu'on ne comprenne pas vraiment. Que les personnes à qui on parle ne comprennent pas forcément vraiment ce qu'on fait dans la vie. Et souvent, quand on rentre dans une exposition aussi, on ne peut pas. On est forcément dans un flou, c'est un espace, on ne peut pas réduire ce qu'on voit à un point. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout à fait comprendre là où l'artiste a voulu en venir exactement. On est toujours dans un déplacement, dans un flou.
Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est...
Et la mécanique quantique, la physique quantique, parce que non, on est dans la physique classique, on est dans du métal qui est courbé, mais dans la mécanique quantique, il y a quand même ce... Si je ne me trompe pas, il y a cette impossibilité finalement de savoir à la fois où est une particule et à quelle vitesse elle se déplace. C'est-à-dire que soit on connaît sa position, soit on connaît sa vitesse, mais faut renoncer à connaître ces deux choses en même temps. C'est
exactement,
ça ?
Exactement, vous l'avez très bien dit.
Et du coup, un peu dans l'exposition, au début je me suis dit waouh, il y a tellement de choses. Donc ça nous donne envie de parcourir. Et à la fois on peut voir, quand on s'arrête sur une image, on ne voit que cette image. Enfin, on ne peut pas tout voir en même temps. Dans cette expo, on ne peut pas tout voir d'un seul point. On est obligé de se déplacer. Et puis quand on s'arrête sur cette image ou cette image, on ne va voir que cette image. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui m'a... Je suis en train de parler à ce que vous disiez.
Mais c'est très intéressant, en fait. Je trouve très bien vu. Je ne l'avais pas vu, justement.
L'expérience du chat Schrödinger, c'est ça aussi. C'est aussi la mécanique quantique. Ça veut dire que... Enfin, si je ne me trompe pas, dans cette expérience, il y a un chat dans une boîte hermétiquement fermée. À un moment, on va tirer dans la boîte et il y a la probabilité de... Enfin, le chat est à la fois vivant et mort.
Tout à fait. C'est l'histoire que je vous disais de noir et blanc.
Voilà.
Moi, je préfère noir et blanc parce que les chats morts et vivants, c'est beaucoup plus d'impact. Moi, je trouve que ça fasse un peu trop de...
Mais du coup, c'est parce qu'on ouvre la boîte... Enfin, Dans cette image-là du chat, je trouve que c'est parce que quand on ouvre la boîte, oui, on va voir s'il est vivant et mort, mais ça veut dire que c'est l'œil de l'observateur qui décide, qui fait qu'à un moment, un espace se réduit à un point.
Oui, tout à fait. Donc, c'est très intéressant. Je reviens vers l'exposé que je trouve Et on ne peut pas le regarder d'ensemble. Quelque part, je l'avais dit, mais je n'avais pas conscience, en fait. Et après votre explication, je suis d'accord, en fait. Et quand, parce que j'avais dit, en fait, il y a plein d'objets, mais je n'étais pas attiré pour un récit, pour raconter la vérité. Plutôt, j'étais attiré par ça. Qu'en plus, il y a une grosse continuité, parce que ces objets métalliques, en fait, continuent un peu partout. Et donc, c'est tout à fait vrai qu'on a du mal. Moi, j'avais choisi peut-être la vitesse. Je bougeais et donc j'étais sur ça. Et vous, au contraire, vous avez choisi la position, c'est-à-dire, vous dites, moi, si je regarde ça, je ne vois pas en fait que ça bouge quelque part, qu'il y a une dynamique. Voilà, disons comme ça. Donc, c'est tout à fait vrai. Vous avez, ce sont des concepts qui sont comme ça. On peut aussi moyenner les choses. On peut voir pas trop où ça se trouve et pas trop savoir sa vitesse. Ok? Donc, c'est jamais binaire. Hein?
C'est ce qui est intéressant dans le domaine de la physique quantique. C'est un peu, moi je fais un parallèle avec l'art. C'est que ça nous oblige à accepter qu'on ne peut pas savoir. En fait. C'est une sorte d'entraînement à l'ignorance. On peut pas. On est dans un flou et il faut faire avec et c'est hyper moteur. C'est...
Oui, alors c'est. Je suis tout à fait d'accord en plus avec l'interprétation et c'était aussi. Intéressant que vous avez introduit la chose en disant que parfois, en fait, on a ce blocage vis-à-vis, en fait, de dire... En plus, moi, par exemple, je suis obsédé d'être un barbaratif, un lion, en fait. Je te raconte mon histoire, tu comprends rien, mais je te fais une tête comme ça. Parce que, d'autre part, j'ai des collègues qui me font ça et qui sont sur leur truc. Et, donc, je cherche vraiment à éviter ça. Et peut-être trop, parfois, parce que parfois, au contraire, on est... Il y a toujours l'histoire de l'intime, on n'a pas envie vraiment de faire savoir ce que l'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et donc, c'était très intéressant, justement, cette difficulté, c'est vraiment une difficulté que l'on a. Mais, dans l'art, je trouve que c'est plus profond. Parce qu'on ne mesure pas. À un certain moment, en mécanique quantique, on ouvre la boîte, on regarde. Le chat est vivant, tout le monde est content.
C'est pareil, à un moment, on s'arrête, on regarde.
Ouais, mais elle n'a pas la mesure. Moi, je trouve en fait. Là, on prend. On part à. Par exemple, j'ai un copain très sympathique, psychopathologue, qui me dit psychanalyse et physique, c'est la même chose. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on a affaire avec le réel, on est obsédé par le réel. On vit avec la réalité, donc les choses plutôt en fait qu'on touche. On a cette obsession, mais on vit bien avec ça, plus ou moins légère. Et puis vous avez les données et moi j'ai les symptômes. Donc moi après microscope truc, je répète ça millions de fois, c'est toujours la même chose. La méthode, paf, elle tombe. Maths méthode me remet sur des rails justement en fait que à mon avis. L'interprétation psychopathologique n'a pas, en fait, parce qu'un individu est différent d'un autre. Donc, je trouve que là, il faut faire attention à trop pousser les concepts philosophiques. Sur ça, on peut se retrouver, peut-être. Je trouve que c'est un peu limité. L'espace, en fait, d'un domaine dans lequel, on mesure. Moi, je te dis, qu'est-ce que ça vaut, ça? Avec une erreur. Okay. Mais bon, je peux décrire avec une grande précision la nature. Cet aspect-là, en fait, c'est là où je trouve qu'il y a une différence fondamentale. Qui, après, on se rejoint dans ce que vous disiez avant. Donc, le fait, effectivement, que, effectivement, on ne sait pas trop, et puis on vit avec ces imprécisions intrinsèques.
Ouais, je lisais une des critiques qui est faite à la physique quantique, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'elle ne décrit pas la réalité. Une des hypothèses qui accompagne les possibilités de courant, c'est quand c'est, j'ai lu ça sur Wikipédia, j'avoue mes sources sont pas super.
Mais moi aussi, je vois celui qui est bien régulièrement.
C'est là qu'on peut faire un parallèle peut-être avec la manière dont les artistes proposent une représentation de la réalité qui n'est pas la réalité non plus.
Alors, oui. Je vois très bien en fait l'idée. Je me permets de reprendre le concept et voir si j'ai compris. Et l'idée, c'est de interpréter la réalité grâce à une structure, pour nous c'est la mécanique quantique, qui permet en fait une description très précise, mais qui n'est pas sensorielle.
Qui est aussi une spéculation en fait.
Et c'est là où je ne sais pas en fait. C'est non, d'accord. Parce que justement, il n'y a pas de spéculation en fait. Les spéculations sont les axiomes de base. Ok. Là, on peut revenir et tout le monde. Mais nous, en plus, en tant que physiciens, je pense qu'on n'est pas. On est beaucoup plus attiré par le fait que ça marche que l'aspect philosophique derrière. Comprenez donc que nous, on est très contents qu'à un certain moment, j'ai fait une manip et j'avais fait la théorie et c'est exactement ça. Et j'avais été tout retiré par des modèles mathématiques très précis. Ça, c'est un grand moment. C'est pas la partie conceptuelle de base. Enfin, évidemment, mais je dirais que, par exemple, quand on était jeune, on se posait, vous êtes jeune, mais on se posait pas ces questions-là dont on discute aujourd'hui, qui au contraire, un artiste, à mon avis, a beaucoup plus tôt, en fait. Je sais, avec le temps et le fait de manier pendant des années ces concepts, qu'après, on se rend compte de tout ça. Mais au début, on est vraiment attiré par une description de la réalité, tout en sachant que c'est un modèle. Et que ce demain, en fait, on trouve un autre qui marche mieux, on prend. On n'a pas un enjeu fort sur... On n'est pas religieux. Dans le sens plus intégriste du terme, en fait. Peut-être quelqu'un même religieux, mais... On défend pas nécessairement une approche plutôt qu'une autre. On défend quelque chose qui se colle mieux à la réalité, donc à l'expérience et à la méthode. En fait, on voit toujours la même chose.
Est-ce que les résultats et les objets produits par la science doivent être vérifiables par les pairs? Mais est-ce qu'on peut du coup nous se demander dans l'art, est-ce que l'œuvre d'art que produit un artiste peut être vérifiable? C'est quand même cette idée qu'un spectateur qui va voir une œuvre, il fait aussi l'œuvre, ce regard-là, il fait l'œuvre. Et peut-être qu'un certain panel de regardeurs vont faire qu'une œuvre va être comprise. Mm-hmm. Plutôt comme ça, plutôt qu'autre chose. Enfin, c'est peut-être après l'histoire de l'art qui rentre là en jeu et qui va écrire.
Tout à fait. Non, mais ça, c'est... Ça, je suis 100% d'accord.
En tout cas, l'art, pour moi, n'est pas comparable au religieux. Est-ce qu'on ne produit pas des vérités? Enfin, c'est peut-être que vous pensiez qu'on était plus proche.
Non, pas du tout. Non. Moi, je voulais dire en fait que c'était plutôt, par exemple, le créationnisme. Ok. Mais non, ça ne va pas avec les manips. Fini. Je ne me prends pas la tête si c'est bon ou mauvais les gens qui font du créationnisme. Mais non, ça ne va pas. Ok. Je fais des manips, je sais que ça marche, donc je prends l'autre. Aujourd'hui, je fais la mécanique quantique parce que ça marche très bien pour la physique qui m'intéresse. J'étais intéressé à ces choses petites, aux dispositifs quantiques, des choses comme ça. Mais demain, en fait, Virginie me propose un autre modèle qui explique mieux. Je n'aurais pas de problème à quitter ça et prendre... Je ne me poserai aucun. Oui, je regarderai quand même. Donc, je ne le prends pas, je ne l'achète pas comme ça. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est... Là, je suis tout à fait d'accord. Cet aspect... Donc, La mesure interfère avec le monde. C'est ça ce dont on parle.
Oui,
et ça, je.
Tout
à fait, exactement. Regard, ça, je suis. Je suis. Puis sachez que nous, on a des effets de mode, hein, autant, quand même. Par exemple, sans parler des religions, mais des effets de mode, il y a des choses qui vont plus que des autres. On est parfaitement tiré des dents. Vous êtes tiré, par exemple, par le taux de marché des galeries et tout ça, qui est plus ou moins catastrophique. Qui tend toujours à reproduire les mêmes choses. Je disais avant, par exemple, que quand je vois quelqu'un qui est très fort aujourd'hui, côté, disons, je trouve toujours un peu de Damien Hirst dedans. Si ça passe, ça passe mal. J'exagère, je ne suis pas un expert d'art contemporain, donc attention, hein, ne prenez pas du tout, prenez-le juste comme une blague. Voilà. Et honnêtement, c'est à ces niveaux-là que je la pose, je me place. Sinon, je pense aussi, comment s'appelle la dame qui a vu, qui a fait arriver son copain en face d'elle, qui a regardé dans les yeux.
on veut plus entendre parler d'elle.
Oh, d'accord, ok. Mais non, mais ça, c'était préparé. Elle m'a arrêté. Elle pleure. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle pleure? Écoute, je sais pas. Mais ça. Mais encore, je parle de moi. Ok, quand j'ai vu la première fois ça. Alors, et ça, quand même, c'est une réalité très importante à laquelle on doit se souvenir. Et c'est sur la structure socio-économique dans laquelle on est pile dedans. Soit là, donc c'est quand même une partie de la réalité, et là c'est plus difficile de faire la part des choses dans l'art, à mon avis, par exemple, avec la physique. Par exemple, hein, donc je.